Allô, ici Brasero. Quelques semaines qu'on prépare la rentrée depuis les locaux de Canal Sud. Et là, c'est de plus en plus proche. La semaine prochaine, pour être exact. Alors, lundi prochain, le 9 octobre, à partir de 17h, écoutez-nous sur le 92.2 pour une émission de rentrée. Une émission en compagnie des collectifs, associations et groupes qu'on aime et qu'on suit ici à Brasero. Aujourd'hui, à Brasero, on a choisi de diffuser un témoignage sur un procès qui s'ouvrira demain, le mardi 3 octobre, à la 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. L'affaire est connue sous le nom de l'affaire des inculpés du 8 décembre, date de leur arrestation en 2020. 7 personnes comparaîtront pendant un mois, accusées d'avoir préparé un attentat sur le sol français. L'affaire est classée terroriste par la police et la justice. Même si leurs renseignements n'ont trouvé ni cible ni projet, les inculpés risquent jusqu'à 10 ans de prison. À Brasero, on souhaite relayer la solidarité dans cette affaire en donnant à écouter une proche des inculpés qui raconte l'histoire, comment ça s'est passé pour il et elle. Il nous semble important de comprendre les stratégies du pouvoir dans ces dynamiques de criminalisation des luttes sociales, mais aussi plus largement des pensées qui critiquent l'État.
D'ici quelques jours ou semaines, du 3 au 27 octobre 2023, va se tenir le procès dit des inculpés du 8 décembre. Depuis presque 3 ans, 7 personnes sont mises en examen pour association de malfaiteurs à caractère terroriste. Retour sur cette affaire par une personne amie et proche des inculpés. L'histoire commence pour Helleux le matin du 8 décembre 2020, où se déploie simultanément dans plusieurs villes de France ce qui sera plus tard appelé un coup de filet antiterroriste. Dès 6h du matin, un nombre assez conséquent de policiers en tout genre entrent armés et cagoulés dans leur lieu de vie.
Ils rentrent dans le bâtiment et ça va assez vite. En une heure, ils sont partis. Les véhicules dans lesquels vivaient les amis sont saisis. Et donc, voilà, nous, on se retrouve là sans trop savoir ce qui se passe et petit à petit à comprendre qu'il y a eu plusieurs arrestations partout en France, que ce sont d'autres amis qui se sont fait arrêter. On apprend qu'il y a 9 personnes qui sont arrêtées ce jour-là sur Toulouse, la région parisienne, la Dordogne et la Bretagne, et qui sont donc tous à Levallois-Perret dans les locaux de la DGSI, donc ce qu'on appelle les renseignements. L'objectif, c'est à ce moment-là de trouver des avocats pour les assister. Ça prend du temps. Les auditions ont déjà commencé. Elles vont durer donc 3 jours, avec plusieurs auditions par jour, de plusieurs heures. Pendant ces gardes à vue, on apprendra par la suite qu'il y a de nombreux coups de pression qui ont été mis. Voilà, les personnes sont en fait dans des états psychologiques, émotionnels, même physiques, qui nous questionnent sur la façon dont sont déroulées ces auditions et nous questionnent sur ce qui est retranscrit du coup dans les PV sur lesquels s'appuiera le juge d'instruction. À la fin de ces 3 jours d'audition, il passe donc devant le juge d'instruction et le juge de détention de la liberté. Et donc 7 personnes sont accusées d'association de malfaiteurs terroristes et 5 sont envoyées en détention. Les 5 personnes qui sont envoyées en détention vont être réparties dans différentes prisons de la région parisienne, c'est-à-dire assez loin de leurs proches. Il y a quelque chose d'assez flou autour de leur statut, mais ce qu'on comprend petit à petit, c'est qu'ils ont ce statut de détenu particulièrement surveillé. que ça entraîne une surveillance accrue et le fait qu'ils sont seuls en cellule pour limiter leur contact avec les autres détenus, ou bien qu'ils sont changés d'aile ou de bâtiment au sein de la prison de façon régulière pour empêcher tout lien au sein de la prison. La détention va durer pour certains 4 mois, pour d'autres 10 mois, jusqu'à 16 mois. La détention pour l'un d'eux se passera à l'isolement pendant les 16 mois, c'est-à-dire que dès le départ, il est placé dans une cellule seule, dans un bâtiment où il n'y a que des personnes à l'isolement. Les personnes détenues ne se croisent jamais et les seules personnes qu'elles voient, ce sont des matons. Le fait de ne voir, d'avoir de contact avec personne au quotidien, ça va entraîner du coup sur sa personne pas mal d'effets. C'est ce que nous on appelle de la torture blanche, c'est-à-dire que c'est pas une torture dans le sens physique, on va violenter quelqu'un, mais c'est plutôt une violence psychologique qui a un impact qui peut être invisible comme ça de prime abord. Et quand, du coup, notre ami se plaint auprès des médecins, etc., ça peut être des maux de tête, ça peut être l'effet d'être complètement perdu, etc. Les médecins de l'administration pénitentiaire lui disent que c'est tout à fait normal, étant donné les conditions de cette détention, et que ça va se résorber avec le temps. Pas de quoi paniquer. Eux légitiment totalement l'état dans lequel sont plongées ces personnes mises à l'isolement. Tous les 3 mois, cet isolement il est renouvelé donc par des personnes différentes au sein de la hiérarchie de l'administration pénitentiaire et ça va jusqu'au bout d'un an où c'est donc le garde des Sceaux, l'actuel ministre de la Justice qui est Dupond-Moretti, qui confirme donc cet isolement et avec donc le directeur de la prison qui affirme ouvertement que quoi qu'il fasse, les décisions sont politiques et viennent d'au-dessus et qu'il n'y aura pas moyen de sortir de cet isolement. Finalement, comprenant qu'il y avait une pression énorme qui était mise sur lui, son choix a été, en fait, au bout du 15e mois, d'entamer une grève de la faim pour protester contre sa détention et son isolement. Cette grève de la faim a abouti à ce qu'il soit hospitalisé et c'est par l'hospitalisation finalement qu'il a obtenu sa sortie de l'isolement et sa sortie de la détention puisque son état se dégradait de façon assez dramatique et donc les médecins ont demandé sa sortie. Il a été libéré sous bracelet électronique. Ça a été un peu un soulagement et en même temps une victoire qui a son prix à payer, quoi, puisque évidemment il y a des conséquences aussi physiques qui sont ressenties à ce moment-là pour Libreflot. La situation pour les 7 personnes qui sont toujours accusées, donc ces contrôles judiciaires, et qui finalement, pour les uns et pour les autres, vont petit à petit s'assouplir à certains endroits, mais un truc qui reste et encore aujourd'hui, c'est l'interdiction de communiquer entre eux. C'est aussi une surveillance qui continue, présence policière, devant les domiciles ou lors des déplacements. Et puis c'est aussi du coup ce mode de vie auquel ont dû se plier les accusés, donc avec l'obligation de travail, d'avoir un domicile fixe, de pas sortir de son domicile. Enfin voilà, il y a un certain nombre de restrictions comme ça. Le procureur dira lors d'une audition que la réussite de ce dossier, c'est comment ils ont tous un domicile et un travail. Ce qui nous montre à quel point la justice et sa fonction répressive, c'est pour rentrer les gens dans un moule et que si on n'est pas dans ce moule-là et que notre profil ne correspond pas à ce moule-là, On a toutes les raisons d'être un suspect potentiel, quoi. Les camarades, ils ont été arrêtés le 8 décembre 2020, mais l'instruction, elle avait commencé bien avant ça, plus d'un an, un an et demi avant. On pourrait dire qu'elle a commencé presque finalement au moment où notre ami Libreflo part au Rojava et devient du coup un internationaliste. Ses idées politiques et son engagement au Rojava est considéré comme quelque chose de dangereux, et comme on pourra le lire dans cet article de Mediapart qui est sorti en septembre 2019. La DGSI surveille particulièrement les personnes parties au Rojava et ayant des idées politiques libertaires, anarchistes ou d'extrême gauche. Et donc, une surveillance est en place et permet en fait finalement de monter un espèce de dossier au sein de la DGSI qui va être soumis donc au juge d'instruction qui ouvre une instruction. Et donc la surveillance, à partir de ce moment-là, elle va s'articuler autour de cette personne et où du coup tous ses déplacements sont surveillés. Il y a des filatures qui sont mises en place, géolocalisation, enfin voilà. Et donc à partir de ça, en fonction de ses déplacements et des personnes qu'il va voir, de ses amis en fait, à qui il va rendre visite, la DGSI constitue petit à petit un espèce de groupe. Ce groupe n'en est pas un, puisque ce ne sont pas des personnes qui ont l'habitude de s'organiser ensemble, de faire des choses ensemble, mais ce sont en fait les personnes que va voir Libreflo quand il en a envie, et parce que ce sont ses amis à qui il rend visite tout simplement. En tout cas, ces personnes-là, elles ne se connaissent pas entre elles et sont simplement liées en fait par leur relation d'amitié avec Libreflo. Ce qu'on observe en tout cas dans la répression, que ce soit dans la détention, dans les moyens de pression, dans comment est construit le dossier, etc., c'est qu'il y a une hiérarchie qui a été faite au sein des 7 personnes qui sont arrêtées, avec une personne qui est présentée par la police comme étant un leader charismatique, qui aurait tenté de constituer un espèce de groupe. En fonction de leurs compétences, il y aurait donc celui artificier, donc qui serait la personne qui maîtrise la partie pyrotechnique. Un autre serait l'ami fidèle, qui aurait un peu le statut de lieutenant, qui organiserait le groupe et le recrutement. Un autre aurait des capacités plutôt psychologiques. Voilà, une autre plutôt des connaissances informatiques. Enfin voilà, chacun a un rôle en fait dans ce groupe, d'après la police. La police met la focale là où elle a envie sur chaque personnalité pour constituer un groupe avec des compétences diverses et complémentaires, et avec cette espèce de hiérarchie selon laquelle donc la répression va se mettre en place autour d'eux. Sur les accusations et les faits qui sont reprochés, donc l'accusation qui porte donc contre les 7 personnes, c'est l'association de malfaiteurs terroristes. Elle était initialement qualifiée de criminelle, et finalement cette qualification n'a pas été retenue, puisque en fait au fur et à mesure de l'instruction, il est apparu qu'il n'y avait aucun projet de s'en prendre à des biens ou à des personnes. Voilà, il n'y a aucun fait de violence caractérisé qui soit reconnu dans le dossier. Donc cette qualification, elle est tombée. Et donc le dossier tient finalement sur des éléments qui ont été rassemblés, qui constitueraient, d'après donc le juge d'instruction, des éléments suffisants pour une accusation de terrorisme. Donc les faits, ça va être la détention d'armes. Donc la plupart sont légales, mais il y en a quelques-unes qui seront saisies au moment des perquisitions qui sont non déclarées, donc considérées comme illégales. Et donc avec ça, la pratique sportive du tir en stand de tir, mais aussi de parties d'airsoft. Un des faits aussi, pendant le confinement, des personnes qui vont essayer de faire des pétards avec des recettes assez simples. Il y a un essai qui sera réalisé dans un champ pas loin. donc sans viser personne, ni rien, ni quelconque infrastructure. Mais voilà, il y a un essai qui est fait, et puis derrière, finalement, plus grand-chose. Donc ça, c'est un événement qui constitue, donc, pour la police, un élément central et important dans cette affaire. Ce qui est reproché, ce serait donc d'avoir voulu s'en prendre donc à la police, d'avoir voulu attaquer des policiers. Ce serait d'avoir voulu potentiellement construire une espèce de milice qui aurait pu s'en prendre, on ne sait pas vraiment à qui, voilà. Mais voilà, c'est des éléments qui sont avancés sans preuve. Dans les faits qui sont reprochés, il y a également le fait que, pour plusieurs d'entre eux, les clés de chiffrement n'ont pas été remises lors de la garde à vue, à la DGSI, ni au juge d'instruction. La clé de chiffrement, c'est ce qui permet, en fait, c'est un mot de passe qui permet de sécuriser ces données. Ça fait partie, en tout cas, de l'hygiène de base pour ne pas se faire voler ces données et ce qu'on stocke sur un disque dur et son ordinateur ou son téléphone. Et donc ça, c'est un des aspects qui est retenu contre eux, et notamment aussi toute leur pratique de protection de leur vie privée sur Internet. C'est constitutif pour eux aussi d'une forme de clandestinité virtuelle qui, du coup, serait aussi un élément à charge. Mais ce qui compte aussi, finalement, dans cette affaire, c'est le profil et les idées des accusés. La DGSI, elle va mettre en place une surveillance, et à partir de cette surveillance qui va venir épier dans l'intime avec l'aide des micros, de la surveillance physique, des indices, etc., elle va produire du coup ce qu'on appelle des notes blanches. Ces notes blanches, c'est une interprétation ou des faits supposés ou réels ou des propos qui peuvent être dits dans l'intime à des moments X ou Y. Et le problème avec ces notes blanches, c'est que très souvent, bon bah déjà, il n'y a pas toujours un cadre légal à cette surveillance. Bon, ça c'est une chose. Mais aussi, c'est que c'est des propos ou des faits qui vont être rapportés sans le contexte. Donc on ne sait pas d'où ça sort, à quel moment c'est dit, etc. Voilà, ça va être une phrase, par exemple. Quelqu'un a dit à un moment, « Putain, j'ai envie de buter des keufs. » On ne va pas faire état du contexte dans lequel ça est dit. Et donc le problème, c'est que des propos qui peuvent être tenus dans l'intime vont être tenus comme argent comptant et comme une preuve des intentions et d'une volonté de passer à l'action. C'est finalement très difficile de démonter ces choses-là, puisque d'une part, finalement, comment on peut prouver qu'on a telle idée ou telle autre idée, qu'on déteste la police ou pas. Juridiquement, on ne sait pas trop quoi en faire, mais aussi, d'autre part, il y a des éléments qui sont avancés, et finalement, les éléments de preuve qu'on pourrait avancer de l'autre côté, ben, on ne les a plus, puisque tout a été saisi lors des perquisitions. Donc, par exemple, tout le matériel informatique, etc. Tout ça a été saisi, et donc, c'est la police qui décide d'aller chercher ce qu'elle a envie d'aller y chercher dans ses ordinateurs, et certainement pas des éléments à décharge pour les accusés. Par exemple, l'un d'entre eux était accusé d'être allé en Colombie et d'avoir rencontré le LN et d'avoir potentiellement organisé un attentat là-bas contre une école de police, alors que cette attaque en question n'a pas eu lieu alors qu'il était là-bas, qu'il parle pas espagnol. Enfin bon, bref, il y a plein de choses comme ça qui sont avancées sans aucune preuve. Et donc finalement, heureusement qu'il n'était pas parti seul en voyage, que donc ses amis ont pu témoigner et dire ce que vous racontez est totalement faux et hors de propos, quoi. Mais voilà, il y a des choses sur lesquelles c'est plus compliqué de venir démonter ce qui est avancé par la police et donc par le juge d'instruction. En fait, c'est un récit, et notre voix face au récit de la police, ben, c'est difficile de faire entendre notre propre récit, notre propre vision, notre propre interprétation des choses, puisque donc la DGSI, quand elle dépose ses notes blanches sur le bureau du juge d'instruction et du parquet antiterroriste, ben, en fait, ils travaillent ensemble, toutes ces personnes. Donc, ça semble assez évident que notre parole face à celle de la DGSI, elle vaut pas grand-chose aux yeux du juge d'instruction ou du parquet. ces entités, elles travaillent ensemble et il n'est pas question de délégitimer leur travail aux uns et aux autres. Avec le recul, nous, ce qu'on voit, c'est que les arrestations et les gardes à vue, elles ont eu un impact assez fort sur ceux qui les ont vécues. C'est des moments assez intenses où tout est fait pour perdre ses repères, que ce soit sur le temps, sur les espaces. Lors des arrestations, ils sont transportés avec des masques de ski qui empêchent de voir ce qui se passe à l'extérieur ou des sacs sur la tête. Ils sont pas nourris du moment de leur arrestation jusqu'à après leur première audition à 23h. Des techniques de manipulation et de pression vont être utilisées par les flics, que ce soit sur de l'aspect, on va dire, émotionnel, et en essayant de faire craquer les personnes, quoi. Et d'obtenir ce que eux veulent. Donc ressortent de ces gardes à vue finalement des PV dans lesquels apparaissent des mots, des choses qui sont dites, qui seraient dites par les accusés, qui en fait ont été arrachées par des méthodes qui sont douteuses. Que ce soit en disant « machin a craqué, c'est bon, t'es dans la merde », ils vont pousser les uns et les autres à parler et à dire et à sauver en fait leur cul et pour ça en fait à dire n'importe quoi. Que ce soit une personne qui va faire un malaise, on fait valider par un médecin à la solde des flics son état de santé et puis on enchaîne. En fait, enfin voilà, il y a un état physique et mental dans lequel se retrouvent les personnes qui fait qu'elles sont prêtes à dire ce que la police a envie d'entendre pour juste on les lâche et qu'on les laisse tranquilles. Derrière, quand le juge d'instruction va utiliser les déclarations qui sont faites pendant la garde à vue, nous, on se questionne sur la véracité et l'intérêt d'utiliser ces propos qui, pour nous, ne sont pas réels. Il y a aussi cet impact qu'on va voir de la surveillance. L'impact de la surveillance et du contrôle avec, du coup, le suivi SPIP. Obligation de travail, d'avoir un domicile, les contrôles judiciaires avec des interdictions de sortir de certains départements, entrer en communication avec ses amis. Tout ça, c'est des choses qui vont isoler énormément les personnes et qui, en plus de la charge à vivre l'accusation de terrorisme en fait dans la vie quotidienne, c'est quelque chose, c'est très lourd à porter. On va pas se présenter à quelqu'un en disant désolé, je peux pas venir te voir à tel endroit parce qu'en fait je suis accusé de terrorisme. C'est aussi une charge qui va peser sur les familles, sur les proches, puisque les liens se resserrent évidemment dans ces moments-là. Et donc il y a une espèce de charge, en tout cas très forte, qui existe sur les accusés et leurs proches. Mais c'est aussi on vient de s'installer dans un village et d'un coup il y a des passages réguliers de la police, alors que c'est un village qui n'en voit jamais, quoi, par exemple. Donc forcément, les gens se posent des questions. Voilà, il y a un ensemble de choses qui fait que ça met les gens dans une position de rupture qui est dure, quoi. Ça pose aussi un truc de... vu que les accusations, elles portent sur leur appartenance à des mouvements politiques, que ce soit écologiste, que ce soit d'avoir participé à des mouvements sociaux, que ce soit... d'une idéologie anarchiste, libertaire, communaliste, etc. Ça va aussi poser pendant un moment un truc d'une crainte, quoi, de participer à ces mouvements, puisqu'ils sont criminalisés finalement, ces mouvements-là et ces idées-là, elles sont criminalisées. Donc voilà, ça pose une rupture aussi à cet endroit-là. On voit qu'il y a une attaque, en tout cas, qui est menée par l'État contre des personnes qui sont impliquées plus ou moins dans des mouvements et des mouvements de résistance ou de idéologiques ou qui s'y sont inscrits à un moment donné. Parce que peu importe que vous soyez actif ou non aujourd'hui, les renseignements ont défini que vous apparteniez à cette catégorie de personnes-là. Ces sept personnes, elles ont des profils, des histoires, des parcours, des projets totalement différents. Et on essayerait finalement de les rentrer dans des cases. Et donc il y a cette espèce de case qu'a construit la DGSI, qui est l'ultra-gauche, et qu'elle essaye du coup de faire entrer dans le vocabulaire médiatique et politique. Et que donc l'ultra-gauche, donc si on en lit cette note qui figure dans le dossier, serait en fait finalement toutes les organisations qui seraient illégalistes, c'est-à-dire qui ne rentrent pas dans le cadre de partis, de syndicats ou d'associations. Tous ces collectifs, ces organisations, ces groupes qui auraient donc des idées, on va dire, de gauche, anticapitaliste, enfin c'est pas très clair, on sait pas trop quelles sont leurs idées, mais voilà, elles se revendiquent d'une espèce d'extrême gauche. Mais comme elles sont pas dans des partis, elles seraient cette ultra-gauche qui a fait le choix de l'illégalisme et de la violence. Voilà, c'est comme ça qu'est définie l'ultra-gauche par la police française. En réalité, l'ultra-gauche, donc c'est un mot qui n'existe que dans la bouche de la police française. C'est pas du tout une identité politique que qui que ce soit revendique en France. Et il y a du coup finalement des groupes qui politiquement ne sont pas du tout sur les mêmes lignes, qui vont être mis ensemble dans ce grand fourre-tout. Et puis finalement, avec l'accusation de terrorisme, il y a un espèce d'ennemi intérieur auquel vont pouvoir être rattachés aujourd'hui les éco-terroristes, le terrorisme intellectuel, on en entend parler, l'ultra-gauche, les black blocs, etc. C'est devenu un ennemi intérieur. Enfin, ça l'a toujours été, en fait. Ça a toujours été un ennemi intérieur. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est réactivé et que la répression est assez forte, quoi, en ce moment. On le voit, c'est très utilisé par Darmanin et par le ministère de l'Intérieur. Depuis l'affaire Tarnac, l'antiterrorisme s'était assez peu attaqué à l'extrême gauche et les anarchistes et autres. Et finalement, on voit que dans ce dossier, il y a eu la volonté de pas commettre les mêmes erreurs que le PNAT avait pu faire avec l'affaire de Tarnac. C'est-à-dire de peut-être s'en prendre à des personnes qui ont des profils différents et qui n'ont pas autant de liens, on va dire, dans la société, ou en tout cas qui sont peut-être, de par leur mode de vie, etc., des personnes un peu plus isolées. Les moyens de surveillance qui ont été mis en place rentrent dans un cadre hyper légal et où, du coup, on constate beaucoup moins d'erreurs, on va dire, qui auraient pu être faites. Et de toute manière, s'il y a des erreurs, les moyens ont été mis pour qu'on ne puisse pas les démonter. Là, il y a clairement une volonté d'aller au bout, et que ça aille au bout ou pas, de tous les cas, les conséquences, elles sont là, déjà. Elles sont déjà en cours, elles sont déjà vécues par les inculpés. Mais on peut imaginer que s'il y a une accusation qui tombe contre eux, ça aura évidemment un impact plus large sur les mouvements d'extrême gauche, écologiste, etc., quoi. On voit qu'avec cet étalage de moyens de surveillance et répressifs, il y a une volonté affichée de criminaliser des mouvements et des moyens d'action, mais aussi évidemment de terroriser et de faire peur des personnes qui pourraient prendre part à ces mouvements, à ces actions, etc., d'en faire tomber un pour en toucher 100. L'outil répressif antiterroriste, ça fait des années qu'il existe. Et aujourd'hui, il s'abat contre des camarades à nous proches. Mais il s'est abattu contre des tas de personnes. Et son objectif, il est assez clair en tout cas, c'est de faire taire les mouvements de contestation, c'est de réprimer et de désigner des ennemis publics, quoi, des ennemis politiques, des ennemis intérieurs. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est pas que par solidarité pour nos amis qu'il faut se mobiliser, mais aussi parce que cette logique-là, antiterroriste, elle a des conséquences sur la vie politique.
Une conclusion assez évidente est que ce genre d'affaires a un impact très fort sur la vie des personnes accusées et leurs proches, la famille, les amis, les camarades avec qui on s'organise, mais aussi un impact plus large sur nos implications politiques.
Autour de cette affaire, on pourrait raconter encore plein d'autres choses. Il y a plein d'analyses qui sont possibles et on invite vraiment toutes les personnes qui se sentent touchées ou concernées par cette affaire à s'en emparer et à diffuser et à produire ses propres analyses aussi.
Vous pouvez parler de cette affaire autour de vous. Organiser des actions et rassemblements pendant la semaine de soutien du 16 au 23 septembre, mais aussi pendant le procès. Vous pouvez rejoindre les rassemblements du 3 et du 27 octobre devant le tribunal de Paris. Enfin, vous pouvez mettre des sous dans la cagnotte en ligne que vous trouverez sur le blog soutien aux inculpés du 8décembre.noblog.org. Sur ce blog, vous trouverez également des brochures, des affiches, des stickers, mais aussi les liens vers l'article de la Quadrature du Net sur l'assimilation du chiffrement des communications à un comportement terroriste. Enfin, des liens vers d'autres podcasts sur Radio Parleur ou encore L'Envolée. Face aux États qui cherchent à diviser les mouvements de résistance et face à l'extension sans précédent de l'arsenal antiterroriste, nous appelons à la mobilisation et nous revendiquons la solidarité sous toutes ses formes. Relax pour tous les inculpés du 8 décembre.